Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial parce que je ne suis pas avec Audrey. Non, elle n'est pas là aujourd'hui, mais je suis avec quelqu'un d'autre. Je suis avec Françoise. Salut Françoise.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, très heureuse de te recevoir.
Mais oui, alors je suis chez Françoise d'ailleurs. C'est pour ça que le son est peut-être un petit peu différent que d'habitude. Françoise est une maman pas comme les autres et nous allons bientôt savoir pourquoi. Est-ce que tu es prête à partager ton expérience?
Avec plaisir.
Eh bien, c'est parti.
Votre café est chaud? Prête pour alléger votre quotidien? Alors en route pour une bulle de douceur en compagnie d'Audrey Libion, psychologue clinicienne, et Nathalie Van Tongelen, actrice et animatrice. Et retrouvons-nous entre mamans.
Je suis trop contente qu'on se voit, enfin qu'on se voit, on s'est déjà rencontrés, mais qu'on se voit enfin pour discuter de ton histoire, parce que ça fait un petit moment que je voulais vraiment t'interviewer, parce que je crois que tu as beaucoup de choses à dire. Parce que je t'ai présentée comme maman un petit peu différente, pas comme les autres. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs, nos auditrices, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu es une maman un petit peu différente? Qu'est-ce qui fait ta particularité?
Alors moi j'ai d'abord été une maman, je vais dire, comme les autres, puisque j'ai eu un petit garçon, tout beau, tout mignon, tout s'est bien passé. Et donc, pour moi, c'était normal, comme tout le monde. Et puis, j'ai eu un deuxième accouchement qui, malheureusement, s'est très mal passé. Je ne vais pas revenir dans les détails, mais j'ai failli perdre mon bébé. Et 10 mois après, j'ai appris qu'il était ce qu'on appelle infirme moteur cérébral. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il a eu une lésion cérébrale suite à une mauvaise prise en charge. Et donc, j'ai appris qu'il était ce qu'on appelle hémiparétique, donc paralysé partiellement du côté droit. Mais au moment du diagnostic, donc il n'avait que 10 mois, donc il ne tenait pas assis, il ne marchait pas, il ne parlait évidemment pas, il n'était pas propre ni quoi que ce soit. J'ai posé la question au médecin, est-ce qu'il parlera? On m'a dit, je ne sais pas. Est-ce qu'il marchera? On m'a dit, je ne sais pas. Est-ce qu'il sera intellectuellement normal? On m'a dit, je ne sais pas. Et on m'a dit, lésion n'équivaut pas à fonction. Donc, la taille de la lésion cérébrale n'équivaut pas toujours à la gravité, mais donc on partait dans l'inconnu total. Donc quand on vous dit on ne sait pas s'il marchera, ben, en tant que parent on comprend, il ne marchera pas. Donc nous on est partis dans le scénario catastrophe, et étant tous les deux du milieu médical, on ne pouvait pas se voiler la face et espérer quelque chose qui n'arriverait pas, donc ça a été vraiment extrêmement violent. Et donc, on a dû apprendre à lui faire confiance, à ce qu'il trace lui-même son chemin. Et donc, j'ai été donc maman ordinaire et puis maman, on va dire, extraordinaire. Et surtout, l'immense amour. J'ai vraiment l'impression que mon deuxième fils m'a fait exploser le cœur, comme je dis. Je l'appelle mon bébé tsunami parce qu'il a, enfin, pas lui, mais ce qui lui est arrivé à tout détruit, il faut bien dire ce qui est. Mais comme après un tsunami, ben, il y a des petites choses qui repoussent différemment. Et j'ai décuplé mon amour pour mon premier. Et ça, j'ai vraiment vu la différence, puisque j'ai vécu les deux. Et je pense que tu as peut-être vécu la même chose aussi, puisque tu as eu les enfants dans cet ordre-là.
Tout à fait.
Je suis devenue, mais 1000 fois... plus maman, 1000 fois plus aimante, 1000 fois en admiration des petites choses. Et quelque part, je pense que cette immense épreuve de vie m'a rendue meilleure sur beaucoup de choses, même si j'aurais préféré que mon fils ne vive pas ça. Mais en tout cas, moi, personnellement, ça m'a amélioré mon ouverture aux autres, mon ouverture au monde, une forme de lâcher prise, un courage que je ne pensais pas avoir. Et comme mon mari ou d'autres parents m'ont déjà dit, l'handicap, c'est un filtre à cons. C'est-à-dire que les cons, ils ne passent plus la porte.
Ouais, on a pas le
temps. Et donc, restent ceux qui se faufilent, n'ont pas peur. Et j'ai vu aussi les réactions de nos amis, donc ce n'est pas toujours facile. Et j'ai vu les réactions qui me faisaient du bien et d'autres qui me faisaient du mal. Et par exemple, j'ai une amie, elle m'a téléphoné et elle n'a fait que pleurer. Et bien, bêtement, c'est ce que j'attendais. C'est quelqu'un qui pleure avec moi. Et pas qu'on me dise, ça va aller, ça va aller. Non, on sait bien que ça n'ira pas. Ça ira différemment. Et cette fille-là qui pleurait, qui me disait « Je m'excuse, mais je suis tellement triste. » Eh bien, c'est finalement elle, c'est ce que j'attendais, qu'on soit en même niveau de sensibilité que moi. Donc, je pense que parfois, il faut laisser les gens aller dans leur tristesse, les laisser aller au fond et puis les aider à remonter. Mm-hmm. Mais le jour même, vous apprenez ça et vous dire « Mais non, ça va aller, tu sais, maintenant la médecine fait des progrès. » Non, non, surtout à nous qui connaissons la médecine. Donc voilà, j'ai vu les réactions qui me faisaient du bien. L'humanité est encore là et on fait des belles rencontres. Et voilà, quelque part, si je n'avais pas vécu cette expérience de vie, je ne serais pas ici.
Pareil.
Et voilà, donc ça m'a permis de rencontrer plein de personnes. Le monde du handicap que je connaissais déjà de ma profession parce que j'y étais déjà intéressée avant. Mm-hmm. C'est un petit peu l'ironie du sort, c'est que j'étais déjà dans ce milieu-là et puis je me suis retrouvée de l'autre côté de la barrière. Je crois que j'ai pleuré, je crois que les inondations, c'était moi qui pleurais, hein, parce que ça a été terrible. Mais voilà, maintenant il a 14 ans et maintenant, je veux dire, je commence à vivre.
Mm-hmm. Il s'appelle comment ?
Il s'appelle Corentin.
Corentin.
C'est Coco. Et c'est un fameux Coco, parce qu'en plus, il a un caractère terrible, c'est vraiment un soleil, comme beaucoup d'enfants qui, depuis tout petit, ont dû apprendre à se battre, puisque depuis l'âge de 10 mois, donc bébé, ben, il a eu 4 séances de kiné par semaine, et puis voilà, c'était le parcours psychologo, ergo, hypothérapie, et donc c'est un gamin qui a la vie dure, je vais dire, mais qui a une joie de vivre, qui nous donne des leçons.
Oui. Au moment de l'annonce, est-ce qu'il y a eu un moment où on t'a annoncé justement l'IMC ?
Oui.
Qu'est-ce que ça a provoqué en toi ?
Donc j'étais, donc c'est moi qui ai fait le diagnostic quelque part. Donc j'ai fait le forcing pour aller chez le neuropédiatre. Donc j'ai demandé un rendez-vous sur le temps de midi, etc. Donc j'y suis allée. Donc le médecin n'avait pas beaucoup le temps. Il a fait quelques tests cliniques et il m'a dit tu as compris ? J'ai dit oui. Il m'a dit c'est grave. Je dis oui. Il m'a dit, ben voilà, on va te recontacter. Mais donc, il était infirme moteur cérébral. Et puis, il est parti parce qu'il avait une réunion. Et on m'a laissée toute seule avec le bébé qui n'a plus bougé. Il ne pleurait plus. Il ne disait plus rien. Donc, il a compris l'espèce de gravité de ce que je ressentais. Donc, moi, j'ai pleuré, mais j'étais à genoux à pleurer dans la salle d'attente.
Toute seule.
Et alors, une infirmière est venue me demander ce qu'il y avait. J'ai dit, bah, écoutez, je viens d'apprendre que mon fils est gravement handicapé. Elle m'a dit, ah, et elle est partie.
Oh
et donc... Et on m'a laissée toute seule comme ça. Donc, j'ai dû sortir pour appeler mon mari parce que je ne captais pas. C'est des détails, mais je me souviens de tout. Donc, c'était à la citadelle. Donc, je me souviens que je suis allée près des ambulances. Et je lui ai dit, voilà, c'est la catastrophe. Il était infirme moteur cérébral. Il m'a dit, ne bouge pas, j'arrive. Et puis là, j'ai vraiment un trou noir hein, qui correspond à stress post-traumatique. Et donc, je l'ai attendu, il est venu, mais ça, je ne m'en souviens plus. Donc, lui, il se souvient qu'il a quitté sa consultation, il est monté. Et alors, je me suis dit, bon, il faut que je le reconduise à la crèche, parce que si je ne le reconduis pas, je n'y retournerai jamais. Donc, j'ai pris la voiture, et je t'avoue que ma première réaction, ça a été, sur un pont de la Meuse, de me dire, je vais donner un coup de volant, et ce sera fini, quoi. C'est la première réaction que j'ai eue. Mais bon, comme j'avais mon grand, déjà, ben voilà. Mais c'était une telle violence que ma première idée, c'était de m'envoler avec lui, quoi, de partir avec lui. Et puis je l'ai ramené à la crèche, où elles ont été super. Elles m'ont dit, écoute, c'était déjà notre chouchou avant, ça continuera à être notre chouchou après. Donc heureusement que le premier contact social post-handicap, c'était une fille fantastique.
C'est
Corinne, là, je la remercierai toute sa vie, parce qu'elle a accepté que la kiné vienne, etc. Donc, j'ai découvert sa kiné, qui est Marie, qui le suit depuis 14 ans et qui fait vraiment partie de sa vie. Mais ça a été extrêmement violent. Et puis après, on m'a dit, mais écoutez, on va vous recontacter, parce qu'il fallait passer une RMN, alors dormir, etc. Et ils m'ont oublié. Donc, ils ne m'ont pas recontactée. Donc, pendant une semaine, j'ai pleuré. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais enfin, j'ai quand même été travailler. Et un collègue m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu es dans cet état-là ? Et j'ai expliqué, mais il me dit, ah, mais je vais te donner le numéro de téléphone de l'endroit où on s'occupe de ses enfants IMC. Et j'ai téléphoné. On m'a dit, ah, ben oui, on a parlé de votre fils au colloque lundi. Mais j'ai dit, oui, mais vous avez oublié de m'appeler. Ah, on ne vous a pas appelé. Ah, ben, je suis désolée. J'ai dit, mais vous vous rendez compte que ça fait 10 jours que vous m'avez balancé quelque part cette bombe et personne ne m'a appelé, personne ne m'a contacté, rien du tout, aucune aide. Moi, je n'ai eu de l'aide de personne.
C'est fou. Hein.
Personne. J'ai fait tout toute seule. Donc, on est allé une fois au service pour faire le bilan, pour me dire qu'il était handicapé, je le savais, et qu'il fallait faire de la kiné, je le savais. Donc, nous, on a pris l'idée plutôt d'aller vers quelque chose de plus doux. Donc, on a fait de l'ostéopathie, on a fait de la kinésiologie, on a fait de l'hypothérapie, on a fait... Voilà, on a essayé de démédicaliser au maximum et lui donner de l'amour. Et surtout, mon mari, ça, j'ai de la chance, mon mari m'a dit, je l'emmènerai partout.
Ah, c'est ça que j'avais demandé. Est-ce que au niveau rôle, dans le couple, vous étiez soudés, vous répartissiez un petit peu les...
Oui, mais ça a été difficile parce que chacun, un homme et une femme ne réagissent pas de la même manière. Comme c'est une erreur médicale, on est parti dans un combat d'expertise judiciaire qui est absolument l'enfer. Et donc, moi, mon mari s'est plutôt occupé de ça. Et moi, je me suis plutôt occupée des soins, je vais dire, avec l'aide de ma mère, de ma marraine qui ont aidé à conduire. Parce que le gros problème, c'est le temps passé pour conduire à gauche, à droite, aller les chercher à l'école, les ramener, conduire le grand aussi, qui a droit aussi à faire ses activités. Et c'est ça qui m'a vraiment épuisée. Et à un moment donné, j'ai même dû... demander à quelqu'un que j'ai rémunéré, je veux dire, parce que sinon on ne s'en sort plus, parce que les grands-parents ne s'en sortent plus non plus. Et puis il y a encore tout le reste, quoi. Il faut aller faire les courses, il faut faire à manger, il faut travailler, parce que l'argent ne rentre pas tout seul. Donc,
plus l'administratif.
Plus les papiers, les documents, les rendez-vous qu'on vous donne. Je me souviens d'une psychologue qui me donnait rendez-vous le jeudi à 10h, parce que mon fils était anxieux. Je me dis, je ne vais pas aller le sortir de l'école à 9h pour le ramener à 11h. Pour aller chez le psychologue, pour le relâcher. Je vais dire, écoutez, non, pas rendez-vous. Donc voilà, j'ai été confrontée à ces problèmes d'horaire que je pense que tu connais également.
Tout à fait, c'est ça qui est fou.
C'est ça qui est le gros problème. Et donc, moi j'ai dit non, je ne voulais pas, et ça mon mari m'a dit aussi, on ne peut pas lui faire porter le poids d'avoir sacrifié toute notre vie pour lui. Et donc on va... le prendre dans notre vie et le faire suivre tant que possible notre rythme. Donc on est toujours parti en vacances, il a toujours essayé de participer à tout. Et la grande chance qu'il a eue, c'est d'avoir son grand frère, Maxence, qui est un grand frère, qui est maintenant un jeune homme exceptionnel. Et le petit, essayer de faire comme le grand.
Ah oui, donc ça l'a poussé, ça l'a tiré vers le haut. Quoi.
Et c'était, quand il était petit, il avait un peu des troubles, des crises de colère, des crises d'angoisse. C'était son frère qui était vraiment le plus à même de le calmer. Mais c'est vrai que ces crises d'angoisse et de colère ont été vraiment absolument épuisantes. Parce que ça a duré des années et des années. Et c'était ça qui était vraiment le plus dur à gérer. Et donc, c'est un épuisement au départ parce qu'il était en plus malade. Donc, un épuisement physique parce que vous ne dormez pas, il fait des crises la nuit. On est parti je ne sais combien de fois en ambulance, en SMUR, des hospitalisations. Donc, il faut gérer tout ça. Voilà, et devoir prendre le grand qui était un peu un enfant salle d'attente, comme il disait à un moment donné, parce qu'il passait sa vie dans la salle d'attente avec moi à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et alors, la famille, enfin, moi, j'ai pas beaucoup de famille, mais... ayant déjà fait les trajets, n'avait plus le courage d'aller peut-être manger une glace ou faire une activité de loisir parce qu'il s'était déjà fatigué. Parce que aller dans un hôpital, il faut se parquer, il faut marcher, il faut prendre l'ascenseur, il faut attendre, il faut revenir. Enfin, c'est lourd.
Puis émotionnellement aussi.
Et puis c'est chaque fois, il n'y a jamais quelque part, il n'y a pas grand-chose qui avance. C'est toujours un peu la même chose. Au niveau médical, moi je suis tombée sur des gens très bien que j'ai choisis, mais qui sont très peu puisqu'il n'y a qu'un seul médecin qui le voit. Enfin, plus l'ophtalmo, et il a dû être opéré, etc. Et moi, mon gros problème que j'ai rencontré, c'est l'enseignement.
Ah.
C'est le gros souci, c'est certains, je ne dis pas tous, mais certains enseignants qui ont été sans le vouloir, je suppose, mais d'une violence et d'une froideur assez terrible. Et alors, dans ce cadre-là, j'ai dû créer avec d'autres mamans des activités dans le cadre d'une SBL pour permettre l'inclusion des enfants extraordinaires dans une école ordinaire, avec l'SBL Célia, qui avait été déjà organisée par une autre maman et dans laquelle je me suis investie. Et j'avais créé également un groupe de parole entre mamans, parce que ce qui me pesait beaucoup, c'est un immense sentiment de solitude, immense, avec la pression On a toujours l'impression qu'on est les premiers à qui ça arrive, que ça n'est jamais arrivé dans l'école où ça s'est passé, qu'on ne sait pas, on n'est pas formé, on ne sait pas, là, là. Alors qu'il y a énormément d'enfants handicapés. Et il y en aura de plus en plus, puisqu'on les sauve de plus en plus en prématurité, etc. Et on sait qu'un enfant prématuré, ben, un tiers s'en sort sans séquelles, un tiers séquelles légères, un tiers séquelles graves.
Donc, je ne savais pas.
Donc, les progrès de la néonatologie font que, ben, on crée aussi des enfants handicapés qui, malheureusement, ben, avant décédaient, tout simplement.
C'est fou parce que je me dis, c'est vraiment ça. J'ai eu le même genre de vécu, de parcours, et tu as l'impression que oui, non, personne ne sait, en fait.
Non, ça n'est jamais arrivé.
C'est vrai, je ne me suis pas fait la réflexion, jamais fait, mais c'est vrai. C'est fou que ce soit au niveau même médical, enfin, un peu partout, en fait.
Oui. On a l'impression que c'est chaque fois le premier à qui ça arrive. Et donc, moi, dans ma jeunesse, j'avais une amie dont la sœur était gravement handicapée mentale et physique. Et donc, une des premières réactions que j'avais eues, c'était de téléphoner à la maman pour voir un petit peu comment elle avait vécu. Donc, c'est une maman qui a l'âge de ma maman, je veux dire, hein, qui est malheureusement décédée maintenant, mais qui avait plus ou moins 80 ans. Et elle m'avait dit, écoute, j'ai une vie compliquée, mais une belle vie. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit, ça va être compliqué et tu auras des grandes joies et des grandes peines. Mmh. Et le premier réflexe, quand j'ai eu le diagnostic, j'ai dit, donc quand je suis retournée la deuxième fois dans ce centre, j'ai dit, écoutez, je veux trouvez-moi une maman qui a un enfant comme moi. Elle m'a dit, oh là là, madame, non, c'est pas possible. J'ai dit, c'est la seule chose que vous demande, vous donnez mon numéro, vous connaissez les autres mères, vous donnez mon numéro à une mère qui me contacterait. Et donc, je voulais une mère émaillère, quelque part, comme un père. Et cette dame m'a gentiment téléphoné. C'est devenu une amie depuis. Donc, ça fait maintenant 14 ans qu'on se téléphone. Donc, son fils a 7 ans plus. Et donc, on a vécu chacune à 7 ans d'écart. Et elle m'a rassurée, parce que son fils est finalement hémiparétique comme le mien. Donc, elle m'a dit, en gros, il se débrouille, je vais dire. Hein. Et donc, elle m'a dit, écoute, il y a de l'espoir, il y en a qui vont bien. Et moi, je l'ai aidé également pour les démarches administratives, pour certaines choses. Donc, on s'est entraidé. Maintenant, son fils a 21 ans. Donc, ça, c'est un adulte. Et c'est devenu une amie, je veux dire. Parce que c'est une des seules personnes qui peut vraiment comprendre ce que je vis. Et voilà, on s'est entraidé. Elle s'appelle Sonia. Et donc, voilà. Et moi, c'était le premier réflexe. Je voulais parler à une mère qui avait vécu ça. Et je l'ai demandé tout au long du parcours et ça n'a jamais été possible. Moi, je voulais un groupe de parole entre parents. Donc, j'ai dû créer moi-même ce groupe de parole où j'avais contacté plus ou moins 8 mères. Quand je dis des mères, il y a des pères, mais c'est toujours les mères qui viennent aux réunions. Il faut bien dire ce qui est. Donc, on avait 8 mères d'âges différents parce que je voulais des mères de bébés, des mères d'adolescents, des mères d'enfants qui ont 30 ans pour voir un peu le vécu, et alors on faisait un après-midi comme ça, je veux dire, papote. Et j'en prenais une éducatrice pour s'occuper des enfants, dans la pièce à côté, et chacun expliquait un petit peu les petites astuces partageait un petit peu, et finalement, tout le monde riait, se moquait un peu l'un de l'autre, et ça faisait beaucoup de bien de se rendre compte que les autres aussi vivaient la même chose. Et
on n'est pas seul. Hein.
Voilà, parce que moi, c'était vraiment ça. C'était un immense sentiment de solitude, immense.
Puis, il y a beaucoup de tabous autour du handicap. Il y a beaucoup de tabous autour de la maternité aussi. Tiens, quels sont nos... On doit être des mères formidables. On doit être tout partout. Enfin, il y a beaucoup de choses qui freinent un petit peu l'échange entre mamans. Et tu as créé ça à quel moment ? À quel moment
Mon fils avait... C'était en 2013-2014. Mais c'est vrai que parfois, on nous dit... Ah, vous avez un enfant handicapé et vous travaillez encore? Mais je dis oui. Et alors
tu sens que tu aurais dû sacrifier ta carrière pour ton enfant quand tu as
oui, parfois, de certains. C'est avec une psychologue notamment qui a ce côté. Oui, des
professionnels.
Oui, des professionnels. Il faut bien dire que.
D'exister. Hein.
Oui, et puis il faut gagner sa vie. Moi, j'étais indépendante à l'époque. Et puis, je ne voulais pas non plus arrêter de vivre pour lui. Et une des personnes qui m'a le plus aidée, c'est un monsieur qui était kinésiologue et qui m'avait dit « Vous avez le devoir d'être heureuse, madame. » Parce que les enfants, c'est des éponges. Donc, si vous êtes triste et en colère, il sera triste et en colère. Et c'était ça. Quand j'étais triste et en colère, ben, il faisait des crises de colère. Et il m'a dit, vous avez le devoir d'être heureuse.
Ça t'a porté, ça ?
Ah, ça, ça m'a déculpabilisée quelque part. Il m'a dit, vous devez vous amuser, vous devez rigoler, parce que lui, il a besoin d'avoir une maman. Pas une kiné, pas une infirmière, vous êtes maman. Et ça, je pense que si j'ai un conseil à donner aux autres mamans, c'est de rester dans le rôle de maman. Vous n'êtes pas la kiné, vous n'êtes pas l'infirmière, vous n'êtes pas le médecin, vous n'êtes pas l'aide-soignante. Dans la mesure du possible, si vous pouvez faire appel à différents professionnels, gardez votre rôle de maman.
Et ne pas culpabiliser.
Et ne surtout pas culpabiliser.
Et faire ce qui est bon pour soi, en soi. Donc,
voilà,
toi,
prendre du temps et... Et on ne peut être heureuse que si on a une vie variée. Mm-hmm. Donc avoir des activités professionnelles, évidemment, je n'ai pas fait la carrière que j'aurais pu, ça c'est clair. Hein.
Tu as pu te valoriser au niveau social, tu
oui,
as pu continuer à exister pour la société, pour toi,
voilà,
en tant que personne. Et
pas les premières années, il faut bien dire ce qui est. Hein. Pendant, je vais dire, 4-5 ans, c'était un peu le mode survie. Bon, j'ai toujours travaillé, mais à temps partiel. Mm-hmm. Mais au niveau vie sociale, ben, on était... épuisé, complètement épuisé. Mais on est quand même parti en vacances, on a quand même essayé toujours de créer des liens, des souvenirs, mais c'était une immense fatigue. Quoi.
Et le parcours de Coco, c'est donc, il y a eu la crèche, et puis qu'est-ce qui s'est passé au niveau...
Donc après, je l'ai inscrit dans une école ordinaire, à l'école maternelle. Donc là, ça ne posait pas...
Ça posait pas de problème.
Pas beaucoup de problèmes. Là, ils ont accepté que la kiné vienne sur place.
Et donc ça, c'était une kiné qui venait sur
place.
C'est cool.
Donc elle venait sur place 3 fois.
Oui.
Mais bon, c'était pas l'idéal parce qu'il fallait aller le chercher en classe. Il n'était pas content qu'on vienne le chercher. Il était un peu gêné qu'on vienne le chercher. Donc c'était pas toujours.
Ah oui, en maternelle.
Oui, il n'aimait pas. Ça veut dire que sa kiné n'avait pas de cabinet à l'époque. Donc elle venait, on n'avait pas trop le choix. Puis sa kiné a ouvert son cabinet. Donc on est allé chez elle. Heureusement, elle habite dans la région.
C'est-à-dire aller-retour.
Voilà.
En plus,
voilà.
Trois fois semaine.
Voilà. Ça l'a perturbé, par exemple, d'aller. Qu'elles viennent à l'école et puis qu'ils doivent aller chez elle. Au début, ça n'allait pas non plus. Mais elle a une patience d'ange, je veux dire. Puis alors après, donc, il est rentré en primaire. Et à partir de la primaire, là, il a eu donc une auxiliaire de vie scolaire qui a été rémunérée par la SBL pour laquelle j'avais fait des activités pour récolter des fonds, etc. Donc, on a fait des grandes soirées. On a récolté des sommes assez importantes.
Pour pouvoir
payer des auxiliaires de vie scolaire que j'ai choisi moi-même, c'est-à-dire des enseignantes retraitées, hein, tout simplement, qui venaient 2 fois 2 heures par semaine dans l'école. Donc, je fais une espèce d'intégration privée, quoi, je vais dire, parce que l'intégration, il fallait l'inscrire dans une école spéciale. Après, ça, c'est un peu plus compliqué. Et surtout, l'intégration, vous ne choisissez pas quand la personne vient, tandis que là, la personne venait quand l'institutrice le souhaitait. Et alors, elle se mettait dans le fond de la classe, elle réexpliquait à Corentin. Et alors, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que tous les autres petits venaient aussi bénéficier de cette dame-là, ce qui a parfois posé problème avec certains enseignants et qui m'ont dit « Vous m'avez mis l'œil de Moscou dans ma classe. » Alors que moi, je leur offrais une aide et ça a été mal pris. L'air de dire... vous croyez que je n'y arriverai pas toute seule, quoi.
Mais c'est dur,
et donc,
dur. Avec combien d'enfants? 20 enfants.
Oui. 27, ça a été, voilà, avec certaines institutrices, ça a été compliqué. Mais voilà, cette auxiliaire permettait d'un peu temporiser, je vais dire. Et alors, j'organisais, mais c'est moi qui faisais tout. Hein.
Ouais,
et moi, j'organisais aussi, donc 3 fois par an, des séances pluridisciplinaires avec son ergothérapeute, sa kiné, sa psychologue... l'auxiliaire de vie scolaire, l'institutrice de l'année et de l'année suivante, le directeur.
Waouh.
Et la personne de l'aide précoce.
Oh, je suis hyper admirative
pour faire
tout ce que
voilà,
mis en place
pour faire ça deux fois par an, pour voilà, faire ça après la rentrée, voir ce qu'il fallait un petit peu améliorer. Et tout ça était évidemment expliqué à Corentin, qui était au courant de tout. Quand il était plus petit aussi, j'étais en contact avec lesbialémiparésie.org, qui est une association française. Donc je suis allée jusqu'à Paris, participer à des congrès, rencontrer cette dame-là, je l'ai fait venir ici, qui est aussi une maman d'enfants hémiparétiques, qui avait créé aussi un magnifique site internet, mais bon, elle a abandonné aussi parce qu'elle s'est fatiguée, qui faisait notamment des bureaux adaptés, des choses, des sous-plaquis antidérapants, enfin, qui avait toutes des petites choses comme ça. Et cette dame-là avait créé, ça c'était extraordinaire, une espèce de template, un mode d'emploi de l'enfant hémiparétique. de 0 à 3 ans, de 3 à 6 ans, etc., en disant, voilà, qui expliquait aux enseignants ce que c'est l'hémiparésie, qu'est-ce que c'est un accident vasculaire cérébral, les difficultés, ce qu'il fallait mettre en place, vraiment un template cartonné, etc., qu'on donnait chaque année à tous les enseignants. Le problème, c'est que certains ne les lisaient pas. Enfin, bon, voilà, hein. Et alors, chaque année, je faisais un petit topo, j'expliquais à chaque... Ben, en primaire, c'était facile, il n'y avait qu'un prof, pour expliquer chaque fois comment les choses allaient se passer, et surtout les handicaps invisibles, qui sont les plus importants, c'est-à-dire l'angoisse, la fatigabilité, les troubles de l'humeur, l'hypersensibilité, les troubles de la vue. Et puis donc, il y a eu un instituteur qui m'a dit, madame, s'il est dans l'enseignement ordinaire, il doit se débrouiller tout seul. Donc, je ne veux plus quelqu'un dans ma classe. Et donc, ça a été une année très difficile parce que le petit a dû se débrouiller tout seul.
Ah, oui, c'est ça. Il n'a pas le choix.
Il n'a pas le choix. Donc, on lui a dit, bah, écoute... la plupart des gens que tu vas rencontrer seront des gens comme ça, donc tu dois t'endurcir. Mais là, ça a pris des proportions exagérées. Par exemple, il avait son lacet défait, on lui a dit « je ne suis pas payée pour faire ton lacet ».
Il y a un moment où il y a un peu de bon sens, un peu de bienveillance, hein. Oui. Ça ne fait pas de mal.
Non. Donc,
je ne suis pas payée pour,
faire tes lacets. Donc, bah, il demandait à un petit copain de sa classe de lui faire son lacet, ce qui est quand même un peu plus humiliant pour lui. Et il m'a dit « maman, je veux changer d'école parce que si je reste ici, je me pends ».
Oh, petit cœur.
Et donc, j'ai dit, écoute, on va changer. Hein? Alors que j'étais allée plusieurs fois trouver l'enseignant, plusieurs fois trouver le directeur. Et l'enseignant disait, ah, c'est de l'humour. Oui, mais on ne fait pas de l'humour avec un enfant handicapé de 9 ans.
On était dans l'école de Maxence,
oui,
à ce moment-là.
Oui. Ouais. Donc, Maxence était parti. Donc, c'est l'école. Donc, tout s'était bien passé. Il suffit de tomber. C'est ça, le handicap, ça roule tant qu'il n'y a pas un caillou dans le truc. Et quand vous tombez sur quelqu'un qui ne veut pas, changement de direction. Et voilà. Et donc, vous n'avez pas le choix. Il faut fuir. Hein. Donc, on l'a mis dans une autre école où on a joué carte sur table. Voilà, il a handicap. Et là, ça s'est très bien passé à la Tenue Royale des Sneux où il est. Et ici, on est en secondaire. Donc, ce qui n'est pas évident non plus parce qu'il faut expliquer à chaque prof. Et alors, depuis quelques mois, un an maintenant, nous avons enfin une ergothérapeute de la province qui vient l'aider.
À l'école ?
Voilà. Après 3 ans, après 13 ans. Donc, à l'âge de 13 ans, pour la première fois, il a une aide. Mieux vaut tard que jamais.
Pourquoi t'as fait des demandes ?
Mais chaque année, je faisais des demandes. Chaque année, le PMS est au courant, mais on disait qu'il y avait d'autres priorités sociales.
Après 13 ans.
Enfin, soit. Et comme il avait quand même des bons résultats, ben, c'était pas prioritaire parce qu'il était courageux, donc il s'en sortait, donc on le laissait. Et donc maintenant, il a cette ergothérapeute qui est vraiment très bien.
Il est en quelle année maintenant ?
Maintenant, il est en 3e secondaire. Okay. Et alors, le gros changement cette année, c'est qu'il est passé sur un iPad, c'est-à-dire donc, un petit ordinateur. Et pourquoi un iPad et pas un ordinateur ? Parce qu'il ne faut pas de souris, puisqu'il n'a qu'une main.
Okay.
Donc, il faut y faire avec le doigt.
Okay.
Et il a un petit clavier. Et ça, ça lui a vraiment changé la vie, parce qu'alors, tout se fait, il n'a plus de papier. Quoi. Mais bon, là aussi, il a fallu batailler un peu avec les enseignants. Et heureusement, le Covid est passé avant. Donc, ils ont dû utiliser un ordinateur, certains pour la première fois de leur vie. Et donc, ça a facilité l'accès à l'informatique, qui est quand même une chance pour nos enfants atteints de handicap moteur ou mental. L'informatique est quand même
une grosse aide.
Une grosse aide. Et le problème, c'est qu'il fallait que les enseignants embrayent le pas. Et donc, c'était un peu compliqué. Mais bon, voilà, à force de se battre, mais il faut retaper sur le clou tous les 3 mois. Quoi. Tous les 3 mois, on recommence. Donc, il a ce qu'on appelle des aménagements raisonnables. Donc, il a droit à un petit peu plus de temps, il a le droit de faire, il a fait son CEB, son CED sur ordinateur. Donc, dans une classe séparée, il faut faire des demandes. Enfin, tout ça est très compliqué parce que l'ordinateur, il a fallu prouver à la vie qu'il avait handicap. Enfin, ça m'a pris 2 mois de mails, de téléphones, de pleurs,
c'est
d'aller,
épuisant.
De revenir. Vraiment. Finalement, j'ai obtenu ce remboursement d'un petit iPad qui coûte 300 euros. Hein. Donc, ce n'est pas grand-chose. Hein. Mais je tenais à faire les démarches dans ça. Et ça lui change la vie. Donc, vraiment, ne pas hésiter à passer sur l'informatique. En plus, il ne porte plus que l'iPad.
C'est ça.
Et plus une mallette qui fait 15 kilos.
Ah,
oui. Parce que la mallette était tellement lourde qu'il s'est fait une hernie discale lombaire.
Ah,
donc, il faut bien dire ça aussi. C'est des enfants qui doivent être bien assis, bien mis.
Au jour d'aujourd'hui, comment toi, tu te sens quand tu vois un petit peu tout ton parcours dans le rétroviseur ?
J'avoue que je suis quand même fière de ce que j'ai réussi à faire.
Je pense que tu peux.
Je pense que parfois je le dis à Coco, mais peut-être que s'il n'avait pas eu autant d'amour et d'énergie autour de lui, je pense qu'il ne serait pas
là où il est,
là où il est, parce que cette stimulation, c'était tout le temps d'un enfant qui a besoin énormément de câlins, d'amour, de extrêmement sensible, dans les bras. Et c'est un enfant qui est très curieux aussi, donc il adore apprendre des choses, et il est très conscient de son problème, on ne lui a jamais rien caché, donc il sait tout ce qu'il a. Et on a essayé parfois même de mettre un peu d'humour, parce que mon grand... qui n'a pas eu la vie facile non plus, hein, parce que il avait 3 ans quand c'est arrivé, Maxence, s'est mis à écrire et il fait de l'humour. Donc il fait ce qu'on appelle du stand-up, donc il s'est mis là-dedans pour aussi être peut-être dans la lumière et avoir sa voix. Et donc on a essayé de mettre de l'humour dans la famille où on se moque un peu parfois les uns des autres, y compris de Corentin, parce que voilà, on a essayé de mettre de l'humour et dédramatiser en disant voilà, c'est comme ça.
On en rit.
Voilà. Et donc, je lui dis, t'as une petite main qui ne va pas, mais t'as plus de courage qu'un autre. Et le courage, ben, c'est plus difficile à acquérir. La volonté, c'est difficile de devenir volontaire quand on ne l'est pas. Donc, je dis, voilà, tu as une rage, tu as une force, tu as un courage énorme que d'autres petits n'ont pas. Voilà. Donc, c'est un gamin qui a vraiment une réelle rage de vivre et de réussir, et d'être le plus autonome possible. Et donc, voilà, ça, je crois qu'on a réussi à lui inculquer ça. Et alors, quelque chose de très important, c'est de préserver son couple. Mm-hmm. Enfin, moi, ça a été la première des choses, quand on m'a appris le handicap, je me suis dit, il ne faut pas que mon mari parte. C'était mon premier réflexe, il va partir.
J'avais entendu des chiffres, si je me trompe pas.
C'est presque 80% de parents qui divorcent. Voilà. Et donc, je me suis dit, il faut...
Et de pères souvent qui
oui,
s'en vont.
C'est les pères.
Parce que le divorce, il n'y a pas de partage de garde.
Voilà, c'est très compliqué.
L'enfant reste avec la maman, voilà. Et puis on voit un week-end de temps en temps.
Et donc, moi, mon premier réflexe, c'est qu'il faut que je garde mon mari, il faut qu'il reste, il faut que je l'englobe dans ça.
Oui.
Parce que moi, j'estime que la mère, c'est les murs de la maison, et le père, c'est le toit.
Ah oui, ok.
Moi, j'ai toujours vu ça comme ça. Oui, donc, oui. S'il n'y a pas les murs, ben, il n'y a rien qui tient. Mais s'il n'y a pas le toit, ça tient, mais ça tient avec...
Ça douche dedans.
Voilà, il pleut dedans. J'ai essayé d'inclure mon mari, de quand même essayer de garder une vie de couple, même si, bon, ce n'était pas toujours évident. Mm-hmm. Bon, il y a eu des...
Ça n'est pas partir en combat toute seule, c'est vraiment de l'embarquer en disant, toi, tu fais des...
Et donc, il y a eu, il y a eu des hauts et des bas, des rendez-vous.
Comme dans.
Hein, donc,
voilà. C'est une aventure
mais pareille. Moi, je me suis tenue à l'idée qu'il faut, je pense, un père et une mère, ou dans d'autres familles maintenant, mais deux adultes, je veux dire, on va dire ça comme ça.
Oui.
Deux adultes, c'est pas trop quoi.
Deux aidants proches.
Aidants proches et d'avoir quelqu'un à qui parler aussi, un adulte à qui parler, parce qu'évidemment, l'enfant... plus âgé, Maxence a été un peu parentalisé évidemment aussi, oui. Hein, parce qu'il a dû parfois aussi me remonter
vous
le
aider.
Moral ou nous aider un petit peu, je veux dire, au quotidien. Et donc,
plus vite autonome aussi peut-être.
Voilà, donc il a dû un petit peu se débrouiller puisque l'attention était plus portée sur le petit qui nous prenait énormément d'énergie. Je me suis toujours dit qu'il fallait garder
le couple,
c'était vraiment la priorité pour l'enfant.
Pour l'enfant, pour la
famille,
le grand frère
aussi. Si c'est des divorces, c'est une belle-mère, un beau-père, changé tout le temps. Le mien qui était hypersensible, ça n'aurait jamais...
C'est ça.
Ça n'aurait jamais...
Par rapport à la stabilité émotionnelle de ton enfant,
Mais j'ai eu la chance de tomber sur un homme qui, malheureusement, avait déjà vécu des drames et des graves problèmes de santé dans sa vie. Donc, il savait ce que c'était et il a assumé. Franchement, il a assumé. Et c'est un très bon père.
Vous formez une équipe tous les deux, on peut dire ça comme ça?
Je veux dire qu'on forme une équipe tous les quatre.
Tous les quatre.
Ah, ouais. Nous, on forme un clan à quatre.
Ouais.
On est quatre individus, je ne vais pas dire totalement sur le même niveau parce que c'est quand même nous, les parents, qui avons le dernier mot. Mais chacun a son mot à dire. Voilà, quand on décide d'aller en vacances, ben on décide à quatre. Oui, où va-t-on? Qu'est-ce qu'on fait le week-end? On décide à quatre. Nous, on a toujours laissé nos enfants libres. Voilà, un fait du stand-up, l'autre fait du tennis de table. Personnellement, je n'ai jamais fait ni l'un ni l'autre. Et moi, mes enfants m'emmènent dans leur monde. Je ne voulais pas les emmener dans le mien. Je leur ai donné mes valeurs. voilà, moi j'étais une grande cavalière, j'ai monté à cheval, ben voilà, mon fils a fait un peu d'hypothérapie, puis ça ne lui plaisait plus, ben voilà, je l'ai laissé. Et donc je trouve que c'est ça la richesse d'un enfant, c'est qu'il vous apprenne des choses. Donc voilà, nous on est vraiment un clan tous les quatre, quoi. On est quatre individus, mais ce qui veut dire que ces quatre individus, chacun remet la table, chacun range son linge, ben voilà, tout est partagé. Je ne suis pas non plus.
C'est ça. Et voilà. Coco participe aussi.
Évidemment, on n'est pas. Corentin fait en fonction de ses possibilités, mais il a ses tâches aussi. Et s'il demande quelque chose, ben je dis essaye d'abord. Ah, s'il n'arrive pas, voilà, je vais lui aider à ouvrir une bouteille ou des petites choses.
Mais tu essayes.
Et puis s'il n'y arrive pas, nous sommes là pour l'aider. Le but, c'est qu'il soit autonome.
Et tu parlais d'une activité particulière.
Voilà, donc Corentin a essayé un sport de groupe, mais ça, c'était vraiment pas du tout ça. Parce que ça, c'est quand même le handicap dans un sport de groupe, c'est
collectif.
Quand même très compliqué.
Oui.
Donc là, il était mis sur le côté, ça n'allait pas. Mm-hmm. Et donc, comme tu as compris, je suis un peu pragmatique comme fille. Donc, j'ai regardé quels étaient les sports paralympiques. Possible.
Trop bien.
Et j'ai vu que le champion paralympique de tennis de table était Lorenz De Vos, un jeune flamand, qui a exactement le même handicap que mon fils.
Ah, c'est vrai ?
Et je me suis dit, je vais le mettre au tennis de table. Voilà. Donc, j'ai cherché un club, et donc je l'ai inscrit là-bas, en me disant, c'est un sport où on ne le bouscule pas, qui n'est pas trop violent, qui est unilatéral, où il est tout seul, mais quand même dans une équipe. Et donc, je l'ai mis là et il a adoré. Donc, bon, ça n'a pas été facile. On a quand même dû changer de club parce que les premiers, le handicap, c'était pas trop leur truc.
C'était un club...
Normal, valide, comme on dit.
Okay.
Et puis alors, la grande idée que j'ai eue aussi, c'est de l'inscrire dans le handisport. Mm-hmm. Ça, je le conseille vraiment. Et donc ça, j'ai pris des contacts de nouveau, des mails, des trucs, des bazars. Et il joue dans le club de Profondeville, en handisport. Donc il participe à des championnats valides et non valides. C'est ça l'avantage, c'est de faire les deux. Et donc ce fameux Lorenz De Vos, qui a maintenant 22 ans, joue dans les valides et non valides. Il fait les deux et c'est un gamin vraiment extraordinaire. Qui est vraiment, il sert un peu de modèle à mon fils, parce qu'en plus il parle français, néerlandais, anglais. Et donc maintenant, le tennis de table, c'est vraiment sa passion. Et une fois à l'école, on lui avait demandé « Quand es-tu libre ?» Et il avait dit « Quand je joue au tennis de table, parce que je n'ai pas le temps de penser. »
Quand il se sent libre.
Voilà, parce que sinon c'est un enfant qui est très anxieux, qui pense tout le temps « Est-ce que je vais arriver ?» etc. Et là, au tennis de table, ça va tellement vite que vous ne savez pas penser à autre chose, quoi. Et alors, il a fait beaucoup de progrès parce que le fait de devoir aller vite, de regarder, d'écouter le bruit de la balle, etc., on voit qu'il a beaucoup fait de progrès au niveau de sa main paralysée parce qu'il a dû apprendre.
C'est de la coordination,
voilà.
Juste le plaisir que tu y
voilà.
prends.
Et donc, il a participé à des stages de détection de champions paralympiques par l'ADEPS. Donc, il est suivi par la Ligue Handisport Paralympique. Il a rencontré aussi d'autres athlètes atteints de handicap, voilà, des gens amputés. Et donc, il s'est rendu compte qu'il avait aussi d'autres handicapés. Au début, il ne voulait pas y aller, mais bon, je l'ai un petit peu poussé. Et puis finalement, il est allé là à 12 ans pour la première fois, tout seul, alors que les autres sont tous des adultes, évidemment. Il n'y a pas d'enfants qui font du handicap. Ah non, et qui font du handisport.
Ouais.
Pourquoi, je ne sais pas, mais ils sont tous adultes. C'est des gens qui ont une vie, on va dire, ordinaire, puis qui ont eu un accident souvent, et qui sont devenus handicapés, et qui font du sport. Mais des handicapés de naissance, il y en a très peu.
C'est ça. Parce qu'on on se limite peut-être aussi en...
Je ne sais pas, parce que, alors que je trouve que c'est vraiment une aide, comme enfant, il est le seul, quoi.
C'est ça. Parce qu'on
tous les autres étaient majeurs, quoi. Il y avait un ou deux, 17 ans. Et alors, il s'est amusé, mais ils ont fait des courses de chaises roulantes, ils se sont amusés comme des petits fous, avec des gens qui avaient 40 ans, je vais dire. Donc, il s'est fait copain avec tout le monde. Et alors, voilà, maintenant, il est beaucoup plus à l'aise socialement, ça lui a fait beaucoup de bien. Et maintenant, il est suivi par une coach qui est une des premières joueuses belges de tennis de table valide, qui l'a pris sous son aile, et qui vient l'entraîner. Nathalie Marchetti, qui est une fille absolument super. Et voilà, lui, il a vraiment envie peut-être
d'aller plus loin.
Mais en tout cas, L'idée, c'est de le développer émotionnellement, psychologiquement, avoir la rage de vaincre, et avoir vraiment un plaisir.
Et de voir que tu es capable. Que, ouais.
Mais évidemment, c'est de nouveau beaucoup de temps, parce que c'est une heure et demie le lundi, une heure et demie le mardi, le tennis de table, plus la kiné le mercredi, plus l'ostéopathe parfois, et le tournoi le samedi ou le dimanche. Donc il est à presque 8 heures de tennis de table par semaine. Ah ouais. Plus 2 heures de soins, donc...
Et toi, par rapport à tout ça, par rapport à justement de voir ton fils dans des tournois, qu'est-ce que ça te fait? Parce que j'imagine qu'il y a combien... Quel âge il a maintenant?
14.
14 ans, il y a 14 ans. Tu n'imaginais pas tout ça, j'imagine.
Mais moi, je trouve qu'on aurait dû me dire que tout cela était possible.
C'est ça.
On m'a cassé plus que de raison. Mm-hmm. Je pense par ignorance, hein, je ne pense pas que le médecin ait voulu faire ça, mais c'est tellement peu valorisé. Si j'avais vu une maman qui avait un gamin qui était comme ça, je me serais dit, bon ben voilà, c'est vivable quoi. Tandis que moi, on est parti avec marche pas, parle pas, pas propre.
Aucun avenir.
On m'a dit, la première fois que j'ai été au centre, je me dirais toujours, on a une bonne nouvelle madame, les langes sont remboursées jusqu'à 9 ans.
Jusqu'à 9 ans et voilà. Quoi et après voilà. Peut...
c'est ce qu'on m'avait dit à l'époque.
J'ai dit ma fille a 7 ans, elle est toujours en l'ange. J'ai dit dans 2 ans c'est fini.
Ah non mais moi j'étais avec mon bébé de 10 mois dans ma poussette et elle me dit ça. Donc de nouveau elle n'a pas voulu me faire de la peine mais je me suis dit mais mon Dieu mais tais-toi quoi.
Il faut réfléchir.
Tais-toi. Et donc nous on s'est dit bon je vais plus là quoi, c'est terminé, je vais plus là. Et donc, voilà, moi, j'étais partie pour changer de maison, pour déménager, parce que j'ai une vieille maison avec des étages, etc. Et voilà, donc, si on m'avait dit, il y en a qui s'en sortent, qu'on ne sait pas au départ, hein, mais montrer quand même l'espoir.
J'allais te demander, justement, qu'est-ce que tu dirais à cette maman d'il y a 14 ans
Ben, je lui dirais, c'est lui qui va te montrer le chemin.
Ouais.
Suis-le. Mais tout ce que tu as prévu vole en éclats, hein, parce qu'on voit, quand on a un enfant ordinaire, on a l'impression qu'il va faire l'école où on est allé, qu'il va faire des études comme nous, qu'il va se marier, acheter une maison. Et là, paf, tout vole en éclats. Moi, je me suis dit un pied devant l'autre.
Ouais,
et regardez que ses pieds, pas le chemin
devant, pas la montagne.
Un pied. Voilà. Et justement, les premières vacances qu'on a fait après le diagnostic, on est allé en montagne, justement.
C'est vrai?
Exprès pour avoir le symbole de marcher. Et finalement, en mettant un pied devant l'autre, on arrive quand même au sommet. Quoi. Ça prend plus de temps, le chemin est parfois plus sinueux, mais on y arrive quand même. Quoi.
On fait des pauses parfois aussi.
Voilà, on fait des pauses, parfois on tombe, parfois on redégringole. Et ça a été très philosophique et je suis contente d'être allée à la montagne cette fois-là. Magnifique. J'ai pleuré tout le séjour, quoi, en gros, mais bon, je sais pas, la montagne faisait quelque chose d'un peu de psychologique et de symbolique, philosophique, quoi. Mmh. Quelque chose comme ça, un petit peu qui dépasse, quoi. Mmh. Parce que qu'est-ce qui fait qu'un enfant va bien évoluer ou mal évoluer? Le handicap est très, très, très mal connu. Pourquoi est-ce qu'il a fait sa lésion juste à cet endroit-là? Voilà, c'est un peu un coup de chance aussi, quelque part. On ne sait pas quelles aires cérébrales ont été touchées, pas touchées, surtout sur un nouveau-né qui avait un cerveau totalement immature. Et donc, en tout cas, il faut le stimuler au maximum, quoi.
C'est ça. Et comment tu vois l'avenir, le jour d'aujourd'hui, pour toi, pour ton fils, mais pour toi, parce qu'on est vraiment sur, en tant que maman, mais ça implique l'un, implique l'autre, évidemment. Donc,
Voilà, donc moi, j'essaye maintenant d'être un peu moins dans le combat, parce que j'ai été dans le combat non-stop pendant 14 ans. Donc maintenant, voilà, il est quand même une certaine autonomie maintenant, donc je dois le laisser un peu faire sa vie aussi. Donc voilà, il part parfois en stage une semaine. Voilà, il faut lui laisser un petit peu sa vie. Et donc moi, j'essaie d'un petit peu ralentir mon mode de fonctionnement, parce que bon, je me suis épuisée, évidemment. Je suis tombée gravement malade, j'ai dû changer de travail. Ben, le corps, à un moment donné, s'écroule, des douleurs chroniques. Enfin, je me suis retrouvée aux soins intensifs. Enfin, bon, ça a été fort compliqué, parce qu'à un moment donné, le corps lâche. Hein, faut pas rêver. J'ai aussi bénéficié d'un soutien psychologique. Hein, ça, je pense que c'est important aussi d'avoir un espace de parole et de se faire aider. Et maintenant, je vais essayer d'un petit peu ralentir un peu le rythme, être moins dans le combat, parce que parfois, j'étais peut-être un petit peu dans le combat pour tout. Mmh. Alors, voilà,
c'est
que
ce
soit à la boulangerie ou ça, j'allais m'énerver rapidement.
En mode survie, quoi.
Voilà, en mode
survivor,
soldat, quoi, vraiment, soldat, tac, tac, tac. Donc, ça, symboliquement, c'est d'un peu déposer les armes et d'être un peu plus dans la douceur envers moi-même,
oui.
De prendre des moments à ne rien faire, d'être dans mon travail, d'être un peu plus cool. Voilà, s'il y a des choses qui ne me conviennent pas, et ben, ne pas essayer de changer le monde et de me dire, ben non, voilà, ça ne me convient pas.
C'est ça.
Tant
on
pis.
Laisse un peu couler, quoi.
Voilà, mais j'ai tellement été dans le combat pour changer le monde de mon fils, mm-hmm. parce que j'ai changé son monde, que j'ai un petit peu eu tendance à vouloir changer
toute la société.
Toute la société. Et ça, ben, on n'y arrive pas. Donc, ça, je dois un peu, parfois, avaler ma chic et me dire, voilà, ce n'est pas comme ça, mais à mon petit niveau, dans ma petite zone d'influence, c'est-à-dire sur mon fils, sur mon aîné, sur les gens que je vois dans mon travail, ben, voilà, faire ma petite aire d'influence, mais ne plus essayer de changer tout.
Et en même temps, c'est comme ça, le petit colibri qui essaye d'éteindre l'incendie, bah, inspire aussi les autres.
C'est ça.
Et il n'y a rien à faire quand on entend ton histoire, tu es hyper inspirante. Pour ça, je suis très heureuse
bah, merci,
que tu
parce que
tout ça.
Je n'ai jamais pu le dire à grand monde et ton entourage ne se rend pas vraiment compte. Parce que une manière de tenir le coup, comme j'ai toujours la carrosserie, ça va plus ou moins, mais à l'intérieur, tout est foutu, plus ou moins.
Tu dis, toi, tout est foutu.
Ben, j'ai quand même pas mal de soucis de santé, je vais dire,
ouais.
Qui ne se voient pas. Mais j'ai toujours tenu donc, à m'habiller, à maquiller, à garder une activité sportive,
à sourire,
à essayer de tenir, ce qui a conduit à beaucoup d'incompréhension parce qu'on ne voyait pas que je souffrais.
C'est ça.
Et que moi, j'avais l'impression d'appeler à l'aide et que personne ne comprenait. Et alors, ben voilà, ça, j'en ai parlé avec la thérapeute qui me suivait. Mais vous donnez l'impression d'une telle force que personne ne comprend que vous êtes complètement... Et donc, j'ai dû apprendre à appeler à l'aide, à dire ça ne va pas, notamment par rapport à ma mère, par exemple, qui fonctionne fort dans l'action, moins dans les émotions. Ben, j'ai dû lui demander des choses concrètes parce que moi, j'ai beaucoup tendance à aller aider, m'occuper des autres et je n'avais pas vraiment le retour. Et comme je me débrouillais, ben on vous disait, bah, elle se débrouille, ça va, elle se débrouille. Mais elle se débrouille au prix
de quoi
de douleur, d'insomnie, d'épuisement. Donc ici, voilà, j'essaye de retrouver un peu de douceur, quoi. Ce qui n'était pas tout à fait mon mode de fonctionnement au départ, pour être plus dans le calme, dans la douceur. Dans
l'écoute de toi, de ton corps, de
tes
besoins.
Voilà.
Je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup, ça fera écho à beaucoup de mamans. Je pense que beaucoup de mamans aussi ont du mal à s'écouter.
Oui.
Quelle que soit la situation, il y a un truc comme ça de...
Mais on n'a pas le temps.
Appris. On n'a pas le temps.
On ne nous donne pas le temps de... Et ça, je trouve, voilà, par exemple, qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les femmes atteintes d'un cancer du sein, etc. C'est super. Mais quelque part, nous aussi, on est malade quand on a un enfant comme ça. On devient malade. Déjà, on est tous épuisés, on a des troubles du sommeil, puis il y en a qui ont des problèmes gastriques, il y en a qui ont des problèmes neurologiques. Donc, une espèce de bienveillance, on ne devrait pas se battre. On devrait nous aider.
Et c'est très symptomatique quand tu me racontes l'annonce et que tu étais toute seule avec cette nouvelle qu'on t'a abandonnée. Ce n'est pas normal.
Oui, non.
Ce n'est pas normal, c'est ça qui est fou.
Et alors parfois,
même
plus,
pas un prospectus.
Rien. Et justement, dans mon travail, bah, parfois je dois annoncer des choses qui sont difficiles aussi, et je donne un prospectus justement aux gens, parce que quand on explique, quand le médecin explique quelque chose de difficile, on n'entend plus. Mais avoir un numéro de téléphone ou quelque chose, et un deuxième relais. Donc, à refaire. Donc, je comprenais que le médecin devait partir, etc. Mais il aurait dû me mettre dans un box avec une infirmière qui m'aurait donné un petit verre d'eau, un petit mouchoir, et qui m'aurait dit, madame, ne vous tracassez pas. Il y en a qui s'en sortent. Je comprends, c'est difficile. Nous serons là pour vous. Ne vous tracassez pas. Ça ne prenait 5 minutes. Ça ne coûtait rien à la société. Et moi, ça m'aurait évité
tellement
de souffrance.
Des contacts, parce que l'information, oui. On l'a pas. Hein.
Parce qu'il faut bien dire aussi que en médecine, on n'est pas formé au handicap du tout. Ah, okay. Parce que, parce que le handicap, on ne sait pas faire grand chose.
Oui.
C'est pas les médecins qui aident la plupart des personnes handicapées. C'est des kinés, de la validation. Mais au niveau médical pur, on ne sait pas traiter. Il faut bien dire aussi que ça ne rapporte pas. Donc il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de firmes pharmaceutiques, parce qu'on les critique beaucoup, mais les firmes pharmaceutiques, notamment dans le diabète, etc., ben, apportent énormément d'aide aux personnes malades, parce qu'elles ont certaines choses, il y a un financement que le handicap ne rapporte rien.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est un mauvais calcul, parce que toute l'aide qu'on met dans la petite enfance permet d'augmenter l'autonomie de l'adulte et donc, quelque part, coûter moins cher à la société. Absolument. Mais évidemment, c'est 20 ans après. Mm-hmm. Moi, mon gamin, je suis persuadée que si c'était une famille où on ne s'était pas occupé de lui, pas de kiné, etc., il ne marcherait pas, il ne parlerait pas, et donc il serait à charge de la société toute sa vie. Et je pense qu'ici, l'argent qu'on a investi en remboursant la kiné, etc., ben, il permettra, je lui souhaite de tout cœur, d'avoir un métier, de payer ses impôts, de faire marcher l'économie et de vivre. Mm-hmm. Et donc, je pense que c'est un mauvais calcul que parfois les politiques font, c'est de ne pas investir, voilà, toute petite enfance, et d'aider. Parce que si vous aidez la mère, elle va continuer à travailler. Mm-hmm. Donc, de nouveau, elle va payer ses impôts, elle va acheter un sandwich à midi, elle va aller s'acheter quelque chose, elle va faire marcher le commerce. L'enfant, lui, va être plus stimulé. Vous allez donner peut-être... du travail à une technicienne de surface, à une kiné, etc. Et donc vous aidez tout le monde. Et si on laisse la mère seule, ben elle va se noyer, déprimer, aller consulter, prendre des antidépresseurs, rester sur la mutuelle, et va coûter à la société.
Oui, et puis même physiquement, au niveau moteur, moi j'ai mon épaule qui me lâche.
Oui.
On a plein de choses.
Hein. Donc c'est aider les mères, ça aide tous les enfants.
Tout à fait.
Et donc, c'est une. Pour moi, aider les mères, mais que ce soit les mères d'enfants handicapés ou les mères précarisées, etc., c'est le début. Et ça, je l'ai vu, parce que moi, je travaille comme médecin légiste aussi, donc ça, c'est autre chose, mais dans les violences conjugales, etc., parce qu'il faut bien se rendre compte aussi que le handicap amène beaucoup de violences conjugales aussi.
Oui.
Ça, on n'en parle pas non plus. Mais y a des papas qui se mettent à boire, il faut bien dire ce qui est, des mamans qui se mettent à boire. Donc de la violence conjugale, parce que tout le monde est tabou, parce que quand un enfant qui fait des crises, vous n'en pouvez plus. Et
puis il y a tout ça. De l'enfant aussi parfois.
Puis la pauvreté se met, parce que vous perdez votre emploi, vous êtes précarisé. Donc c'est toute une accumulation de problèmes. Alors que si vous aidez concrètement, donc concrètement ce qu'il faudrait faire, moi ce que j'aurais eu besoin, c'est d'une assistante de vie. Voilà, moi c'est ça que je pense qu'il faudrait faire. C'est une assistante de vie qui viendrait, que je pourrais même payer avec des chèques comme les titres service, y avoir un nombre de chèques en fonction de la gravité du handicap de l'enfant, qui est reconnu par la Direction Générale Personnes Handicapées. Voilà, donc une catégorie 3, ce serait, je ne sais pas, j'invente 100 chèques, et des chèques que vous utilisez pour ce que vous voulez. Donc, pour qu'elle garde des enfants à la maison, pour qu'elle le conduise chez le kiné, pour qu'elle le conduise chez le médecin, pour, voilà, des chèques, aide de vie à l'heure que vous utilisez pour ce que vous voulez.
Ce serait super.
C'est tout simple.
Ouais.
Et en plus, vous gardez les agences de techniciennes de surface, comme ça, c'est déjà fait, et toutes les techniciennes de surface qui ont mal au dos, qui n'arrivent plus à faire le ménage, pourraient faire ça. On leur donne une petite formation d'aide à la personne. Et ça permettrait à ces femmes-là, au lieu de rester sur la mutuelle toute leur vie, d'avoir un travail, et vous, d'avoir une aide à domicile. Moi, je pense qu'il y a des choses vraiment très, très simples à faire. Notamment, donc moi, j'avais travaillé à un moment donné dans la Direction Générale Personnes Handicapées, la Vierge Noire, comme les gens disent, où il y avait une section enfants, adultes, personnes âgées. Maintenant, les enfants sont passés à la VIC, les personnes âgées dans les mutuelles, où ça se passe...
C'est galère.
Ça se passe, on va dire. Je ne sais pas dire autre chose, ça se passe. Mais une chose toute simple, parce que où trouver les parents d'enfants handicapés, quand on leur envoie la lettre de reconnaissance.
Mais évidemment, moi, je n'ai jamais compris pourquoi dans cette lettre, je n'ai même pas un petit fascicule. Voilà.
Alors moi, j'avais dit, quand j'y travaillais, dans cette lettre-là, quand on reconnaît que votre enfant est handicapé, vous joignez une petite page www.enfantshandicapés.be, un site internet, et sur ce site, vous mettez, voilà, pour les aveugles, SBL, machin, 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 pour les trisomiques, SBL, machin, machin, avec une petite carte de la Belgique, vous voyez, comme dans les magasins, Vandenborg, etc., là, hop, vous voyez tous où sont les petits points, où sont les trucs,
l'association la plus proche de chez
l'association
soi.
La plus proche de chez vous, un groupe de parole, une dame qui serait simplement à l'accueil et qui répondrait aux questions, et des parents référents. Mm-hmm. Donc, pour chaque handicap, des parents... De parrainage, si vous voulez. Mm-hmm. Oui, donc des parents de parrainage qui accepteraient de téléphoner. Mm-hmm. Parce qu'il y a ça où ? Il y a ça aux alcooliques anonymes.
Ah oui.
Vous okay. voyez mm-hmm. Ou, c'est pas, je n'ai pas bu, mais, mais je connais par mon métier. Mm-hmm. Où vous avez une espèce de parrain. Mm-hmm. Donc quand vous n'êtes pas bien, ben vous téléphonez à la personne. Et donc moi, c'est, personnellement, c'est ce que j'ai fait avec l'ami dont je vous parlais tout à l'heure. C'est que quand j'avais des problèmes, je lui téléphonais, je lui dis, écoute, voilà comment ça... Et elle aussi, on se téléphonait en disant, oh, écoute, j'en ai marre, etc. Ou, voilà, et donc d'avoir... Donc c'est tout simple et ça ne coûte rien.
Et en plus, les gens ont envie... Enfin, moi, je sais que si on me pose une question, etc., j'ai envie d'aider.
Mais oui, on a, envie, on a envie que notre malheur serve à quelque chose. Oui. Moi, le nombre de fois que j'ai tapé sur Google... enfants, infirmateur cérébral, Liège, enfants, handicapés, Wallonie,
école,
et rien n'y arrive. J'arrivais nulle part. Récemment, j'ai entendu parler de l'SBL RAF. Et donc, ça, c'est un réseau d'aide aux parents d'enfants handicapés. Réseau d'aide. Hein. Et donc, cette dame-là, c'est un peu voilà, centralisée.
On a encore du chemin à faire en Belgique. Hein. On va tout doucement clôturer cette interview. Je voulais savoir d'abord si tu avais quelque chose d'autre à dire. On termine en général par une petite citation, mais est-ce que tu avais envie de faire passer un autre message ?
Alors moi, je pense voilà, que la chose qui aide le plus, c'est un peu bateau, mais c'est l'amour. Mm-hmm. L'amour, vraiment aimer un enfant, le prendre dans ses bras, le câliner, être fier de lui, aller partout avec, d'être fier. Et si vous avez un regard fier sur votre enfant, personne ne va oser regarder différemment, qu'il se sente beau, que vous vous sentiez belle aussi et forte et fière. Voilà, sentir fier de son enfant.
Fier d'être maman.
Voilà, fier d'être maman, fier d'être une maman extraordinaire, en deux mots, merveilleuse. Moi, en tout cas, ma devise, qui était déjà la mienne avant de cavalière, comme je t'ai dit, j'ai beaucoup monté à cheval quand j'étais jeune, c'est calme, en avant, droit. Quand on est à cheval, il faut rester calme, en avant, on ne recule pas, on avance, et droit. Pas gauche, droite, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Donc, si j'ai une devise, ça se calme, en avant, droit. Voilà.
Mais merci pour tout, François. Je suis hyper émue par ce...
Mais écoute, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de dire ce que j'avais sur le cœur.
Un tout grand merci, Françoise.
Mais écoute, merci beaucoup à toi.
Et merci à vous de nous avoir écoutés. Et nous, on se donne rendez-vous. On ne planifie plus trop pour le moment avec Audrey, donc on vous dit à bientôt.
À bientôt, bonne journée.